Voilà, la vie n'est pas toujours facile, plus difficile pour certains que pour les Suisses chanceux que nous sommes. Et ce matin, on va parler de une rencontre qui nous met en route. On va ouvrir la parole, écouter Dieu ensemble. Et puis, essayer de tenter de répondre à cette question où se fonde notre espérance chrétienne. Ça rejoint le thème, la vision de l'année pour cette Église, être porteur d'espérance. Mais alors, être porteur d'espérance, qu'est-ce que ça change dans ma vie au quotidien, quand parfois c'est juste une barque qui est en train de couler, parfois on traverse le deuil, la souffrance. On traverse tous des moments moins drôles. Et qu'est-ce que ça veut dire espérer en Dieu dans ce genre de moment? Alors, avant d'ouvrir le texte ensemble, je vais vous présenter Tout va bien. C'est ce petit chien qui nous dit donc This is fine. Hein, il nous dit Tout va bien. Ça n'a pas trop l'air comme ça, mais pour lui, ça va. Alors, je précise juste que ce n'est pas du tout un autoportrait. Hein. Si vous discutez avec Ellie, ça se pourrait qu'elle vous donne quelques traits de similarité avec moi, mais ce n'est absolument pas le sujet. Tout va bien est un optimiste. Hein. Il croit toujours que tout va bien. Il y a une forme de déni de quand ça va juste pas et qu'il faut se bouger. On pourrait croire qu'il est plein d'espérance, hein, parce qu'il espère que tout va bien, quoi. C'est le modèle d'un porteur d'espérance, là, notre cher ami. Pour lui, quand le warning de la voiture s'allume, ça affiche 50 km, il se dit, OK, dans 50 km, faut que je commence à chercher une station d'essence. Il sait qu'il met 9 minutes pour aller au boulot, il commence à 8 heures, donc à 7h50, quand il est encore dans son lit, il se dit en théorie, je suis pas encore en retard. Hein. Si je fais tout en 1 minute, 9 minutes de trajet, je suis à 8 heures, je suis à l'heure. Alors vous l'avez compris, tout va bien, ce qui le met en route, lui, c'est son optimisme, hein, basé sur un déni de la réalité, et ça tranche complètement avec l'espérance qui, elle, est fondée sur une certitude, une connaissance, et c'est ça qu'on va regarder ce matin. Ce qui le met en route, tout va bien, et souvent en panne ou en retard, du coup, c'est l'optimisme. Et on va voir en quoi ça diffère avec notre espérance chrétienne. Pour ça, on va donc continuer la série sur Ésaïe, commencée il y a quelques semaines par Johan, et ouvrir le chapitre 6 ensemble. Dans ce chapitre 6, le prophète Ésaïe a une vision de Dieu. Il rencontre le Créateur. Il comprend qui est Dieu, et c'est en comprenant qui est Dieu qu'il comprend sa propre mission à lui. Les chapitres 1 à 5, qu'on a un peu traversé il y a 3 semaines avec la prédication de Johan, nous ont présenté hein, les conséquences du péché dramatique. Ces 5 chapitres moins drôles que ce 6e, je vous le promets, et nous ont fait le dessin qu'il y a 2 royaumes, hein, 2 cités, comme Johan l'a dit, qu'on a le choix de servir, la cité de l'homme ou la cité de Dieu. Il n'y a pas de tiédeur possible, Dieu recherche des fidèles consacrés à 100% à lui. Et donc ces 5 premiers chapitres nous ont montré également que le peuple d'Israël n'est pas vraiment en train de suivre le bon chemin, n'est pas au service du bon royaume du tout. Il met plutôt sa confiance en lui-même, en ses alliances militaires qu'il essaye de faire. Et Dieu pourrait, à la fin de ces 5 chapitres, faire vivre sa justice totale, éradiquer toute l'humanité, tout le péché, et la justice de Dieu serait respectée. Mais ce chapitre 6 nous invite à comprendre que Dieu n'est pas uniquement un Dieu de justice qui veut la mort et la destruction du péché, bien qu'il le veuille, mais il recherche aussi la transformation intérieure des pécheurs. Et cette transformation se base sur notre connaissance de qui est Dieu, car il se donne à connaître. Et on va suivre les 4 étapes que le prophète traverse dans ce chapitre 6. Tenter d'être comme lui, transformé de l'intérieur pour comprendre où se fonde notre espérance chrétienne. Alors je vous invite à lire les 4 premiers versets. L'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont il se couvrait le visage, deux dont il se couvrait les pieds et deux dont il se servait pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers ». Sa gloire remplit toute la terre, les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Voilà le point de départ de l'appel et de la mission d'Ésaïe, comme titre la Bible Second 21, c'est ce sixième chapitre, appel et mission d'Ésaïe. Le point de départ, c'est une rencontre avec Dieu, une vision de Dieu. Et Ésaïe comprend alors qui est Dieu parce qu'il le rencontre. On a là un magnifique et impressionnant tableau de la sainteté, la grandeur de Dieu et un accent particulier sur sa royauté divine. On y reviendra tout à l'heure. Mais cette vision n'est pas uniquement énorme et éloignée, elle provoque chez Ésaïe une compréhension très profonde de qui est Dieu. Et c'est cette rencontre intérieure, cette nouvelle connaissance de qui est son Dieu, qui met le prophète en route. C'est le début de son appel, commence par une rencontre. Ça tranche complètement avec le peuple d'Israël qui était embourbé dans des rites et des pratiques extérieures, qui croyaient que... Ouais, je crois que je les ai mises là. Ils avaient une mauvaise vision de Dieu, hein. Ils ne connaissaient pas Dieu, et donc, quand on connaît pas notre Dieu, on le sert mal, on fait faux. Et le peuple d'Israël était dans des pratiques tout à fait extérieures, alors que leur vie et leur cœur n'étaient absolument pas alignés avec la volonté de Dieu. Au chapitre 1, et Dieu dit leur dit des choses assez dures. Que m'importe la quantité de vos sacrifices, cessez d'apporter des offrandes illusoires, je supporte pas l'injustice associée aux célébrations. Et que vous tendez les mains vers moi, je détourne les yeux de vous. Le peuple d'Israël pensait qu'il pouvait vivre comme il voulait, et si les rites, les sacrifices étaient faits de manière formelle, alors Dieu serait satisfait et on est tranquille. Mais Dieu n'est pas un Dieu d'apparence. Et cette vision très élevée, très exaltée de ces quatre premiers versets que ces quatre premiers versets nous donnent, montre à Ésaïe que Dieu est hors d'atteinte de ce genre de manipulation ou instrumentalisation de Dieu. On ne peut pas juste faire la forme correcte, les bonnes apparences, et ensuite être tranquille. C'est une pratique, en fait, superstitieuse, hein. C'est la logique de la formule magique. Si je fais la bonne chose, ça se passe, Dieu est satisfait, je suis tranquille. Alors, ces quelques versets épars du chapitre 1 peuvent nous paraître un peu éloignés, hein, des sacrifices, des holocaustes, ça va, on se dit, normalement, ça, moi je fais pas trop ça, donc au moins je fais pas faux comme eux. Mais des fois quand même, la logique de prendre Dieu pour un parcomètre est pas si lointaine de nous, hein. Si je paye 3 heures, ah, le monsieur de la sécurité publique me laisse tranquille 3 heures, hein. Si je donne ce qu'il faut, je suis tranquille le temps qu'il faut. Tellement humain comme réflexe quand même de temps en temps, hein. Je fais ma prière quotidienne, je viens au culte dimanche, Seigneur, tu me laisses tranquille cette semaine, j'ai fait ce que je devais. J'ai payé ce qu'il fallait, j'ai ma petite place de parc dans ton royaume, et ensuite tu me laisses tranquille, j'ai pas besoin de vivre selon ta volonté ou de te rencontrer. C'est pas si loin de nous que ce qu'on croit de temps en temps. Alors qu'est-ce qui me met en route? Est-ce que c'est l'envie de résultat parce que je sais ce qu'il faut donner à Dieu pour qu'il soit content, ou je crois savoir, et donc je paye pour ce qu'il faut? Ou est-ce que comme Ésaïe, je le rencontre, et on va voir quelle est sa réaction en lisant le verset 5. Sa réaction qui est donc la confession. Ésaïe nous dit « Alors j'ai dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures ». J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. La réaction d'Ésaïe interpelle un peu, hein. Il n'est pas extasié comme moi je l'étais quand je lisais ces quatre premiers versets, parce que je pense que ça fait du bien de l'avoir sur papier, cette vision n'est pas en vrai. Il est terrorisé en fait, Ésaïe, parce que devant une vision si concrète, si vraie de... qui est notre créateur, l'humain est soudain remis à sa place, et dans sa condition de pécheur en l'occurrence. Les lèvres impures et le peuple aux lèvres impures sont ici un symbole, hein, de ministère de la parole que Ésaïe exercera, auquel il est appelé dans ce chapitre 6. Et c'est Jésus lui-même dans l'évangile de Marc qui relie les lèvres, ce qui sort de l'homme, au cœur et ce qui est à l'intérieur de l'homme. Le problème ici n'est donc pas uniquement un problème de lèvres, on le comprend bien, mais un problème de cœur, un problème intérieur. Le peuple qui devrait suivre la même voie qu'Ésaïe vit dans la plus grande indifférence intérieure face à son Dieu, hein, et bien loin de l'adoration et du service sincère. Ésaïe décrit ici, il ajoute le terme « roi, éternel maître de l'univers » à la première description qu'on a eue tout à l'heure. Ça tranche avec l'introduction de ce chapitre 6 qui nous disait « la mort du roi Ozias, j'ai eu cette vision ». Comme si symboliquement le roi humain n'est plus, le prophète, le peuple, a donc une chance de se dire « quel roi je veux servir ?» Est-ce que ce serait peut-être une bonne idée de se tourner devant le roi divin que je rencontre en ce moment ? Alors la suite de l'histoire nous dit que le peuple de Dieu suit plutôt son roi humain et place sa confiance dans sa puissance militaire, puissance humaine, ses alliances avec la Syrie notamment, qui sera trahie par la suite. Et le peuple finira exilé à Babylone dans la plus grande dévastation. On est donc, comme Ésaïe, placé devant un choix, et comme le peuple, celui de mettre notre espoir dans l'homme et enlever Dieu de l'équation, ou alors reconnaître humblement la grandeur de Dieu et donc notre petitesse. Et dans notre société, c'est des réactions, un choix qu'on voit aussi, hein, pas uniquement le peuple d'Israël. Je pense par exemple à la crise écologique qui frappe spécialement le mental, le moral de ma génération. Quand on n'est pas devant notre Dieu, qu'on n'a pas rencontré Dieu, qu'on ne peut pas se confesser, être porté par plus grand que nous, alors oui, on est obligé de mettre notre espoir dans l'humain, à coup de bons programmes politiques, énergie renouvelable, fusée, on va sur Mars, tout va bien, on est en parfaite maîtrise, hein, on n'a pas besoin d'un Dieu quelconque. Elon, tout va bien, Musk n'a pas besoin de Dieu, il est en parfaite maîtrise, l'humanité se suffit à elle-même, qu'est-ce qu'il faut inventer un Dieu ? L'espoir en l'humain, ça marche aussi en 2025. Et puis il y a aussi, peut-être plus lucide, le désespoir humain. Hein. S'il n'y a pas de Dieu, alors on est foutu, l'humanité va à sa perte, la nature reprendra le dessus. Et on est dans une société éco-anxieuse. On a carrément inventé un mot pour décrire l'anxiété de cette génération, cette société. Éco-anxieux. Quand on ne peut pas se confesser, c'est dur de ne pas pouvoir placer notre espoir dans quelque chose de plus grand. Ne pas être porteur d'espérance, c'est devoir placer son espoir ou son désespoir dans l'humain. Alors, outre ces deux possibilités, quand nous avons rencontré Dieu, il y a cette possibilité de confesser qu'on est porté par plus grand que nous. Ça ne veut pas dire ne pas s'engager dans le cas de la crise écologique, par exemple. Mais ça veut dire s'engager selon la volonté de Dieu et pas selon ce que moi je perçois. Ça veut dire s'engager en sachant qu'il y a plus grand que moi et que c'est lui qui porte tout dans ses mains. Vivre dans l'espérance, espérer en Dieu, c'est donc vivre en sachant qu'il tient tout dans ses mains. Et c'est parce que j'ai fait sa rencontre que ça, je peux le confesser. Alors après notre confession, c'est Dieu qui répond. Et on lit les deux versets suivants. Car Dieu répond par la purification. Ésaïe nous dit, alors qu'il avait dit « malheur à moi », il nous dit « cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit « puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » On assiste donc ici à la purification des lèvres, symboliquement du cœur du prophète. Et c'est peut-être ça le fondement de l'espérance chrétienne, hein, qui est la nôtre. Dieu fait grâce. Lorsqu'on le rencontre, qu'on confesse notre petitesse, notre péché, alors Dieu purifie. Lorsqu'on lui dit « je veux marcher selon ta volonté » en sachant que c'est toi qui tiens tout dans tes mains, il nous dit comme à Ésaïe « ta faute est enlevée et ton péché expié ». C'est Paul qui l'affirme aux Éphésiens et ses paroles sont encore pour nous aujourd'hui. Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ça fait du bien quand même, hein ? Une différence fondamentale avec l'anxiété, la tension, le stress que notre société doit vivre quand ils se posent des questions sur leur vie et sur l'existence. Alors, nous, on connaît l'issue de l'existence et ça nous permet de vivre dans l'espérance. Mais quand on ne connaît pas l'issue de la partie, comme quand on regarde un match en direct, hein, on traverse toutes les émotions, stress, tension. Il y en a deux dans cette salle avec qui j'ai vécu ce match. Je pense qu'on avait des têtes bien pires que ce gars. Allongé dans le salon au bout de notre vie, tout était anxiogène. Hein. Quand on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, on ne connaît pas l'issue, on vit tout à fond. Je pense qu'il y a un chat qui passait dans ce salon, il y a un de nous qui faisait une attaque, c'est sûr, on était au max de la tension. Et ça tranche tellement avec certains matins où je me levais, mais je n'avais pas eu le droit de regarder le match le soir d'avant. Match de hockey, un vrai sport, contrairement à ça. Et tu vois, ok, Lausanne a gagné 4-3 contre Genève, joli match. Bon, rien à faire samedi matin, je vais regarder le match en différé. Je connais l'issue de la partie. Un patapouf sur son canapé, tellement serein. Le match est serré, hein, beaucoup plus qu'un vieux match de foot. Et pourtant, je connais l'issue. Donc, une sérénité pendant 2 heures de match, une paix profonde, je vous jure. Pourquoi ? Parce qu'on connaît l'issue. L'espérance chrétienne, ce n'est pas uniquement savoir ce qui se passe à la fin, mais ça change notre manière de vivre le présent et chaque jour de notre vie. Alors ce serait bien, j'aurais bien aimé que ce chapitre 6 fasse 7 versets et qu'on finisse comme ça, sérénité et paix profonde. Malheureusement, il en reste presque autant pour nous dire « en route ». Le Seigneur ne s'arrête pas là. Oh, la mise en pratique, c'est un peu tôt. Ouais. En route. Alors, retournons au texte pour lire l'appel que le Seigneur fait à Ésaïe. « J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Il a alors ordonné, va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. J'ai dit, jusqu'à quand, Seigneur ? Et il a répondu, jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains et que le territoire soit dévasté, désertique. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains et qu'une grande partie du pays soit abandonnée. S'il y reste encore un dixième des habitants, à leur tour, ils passeront par les flammes. Cependant, tout comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche, quand ils sont abattus, la souche de ce peuple donnera une sainte descendance. Alors après ces 3 étapes de la rencontre, de la confession et de la purification, Ésaïe est mis en route. Il est appelé à la mission, appelé à annoncer le jugement de Dieu. Dans ce chapitre, Dieu explique à Ésaïe que la sentence est déjà prononcée dans les cieux et sa mission à lui, c'est l'annoncer sur terre. Il est appelé à être le porte-parole du Seigneur. On retrouve ici le symbole des lèvres du ministère de la parole du prophète. Et le commentateur dont je me suis largement inspiré pour cette prédication, Barry Webb, nous dit que c'est l'absence même de réaction du peuple, hein, tout ce qu'on lit dans ces 7 versets, qui est un aspect du jugement de Dieu sur lui. Le peuple a comme franchi un point de non-retour, hein, tellement endurci dans l'indifférence et l'arrogance qu'il doit maintenant goûter les fruits amers de l'indifférence face à Dieu, la dévastation et l'exil. Alors cette mission fait pas très envie, hein. Quand je l'ai lu, j'ai dû le lire plusieurs fois pour me dire bon, ça m'aurait pas vraiment fait kiffer moi d'être appelé à endurcir les cœurs. Et pourtant ça questionne sur mes motivations, nos motivations à se mettre au service de Dieu. Qu'est-ce qui me pousse à l'annoncer? Qu'est-ce qui me pousse à être son témoin? Qu'est-ce qui me met en route? Plutôt le résultat, hein, plutôt les gens en face. Ah bah oui, je vais l'annoncer comme ça, je fais des convertis. Je l'annonce comme ça, les gens voient l'amour que je dégage par lui. Et bien ce chapitre 6 d'Ésaïe nous propose plutôt une mesure de la réussite par uniquement appliquer la volonté de Dieu. Si j'obéis à la voix de Dieu, alors c'est une réussite. Et c'est uniquement ça qui doit être mon critère de est-ce que je me mets en route, est-ce que je suis en mission? Oui, parce que je suis dans la volonté de Dieu. Pas parce que c'est dur ou pas, parce qu'il y aura des résultats ou pas, mais uniquement parce que c'est ce que Dieu me demande. Notre mission est donc fondée sur la rencontre et la connaissance de Dieu en premier. C'est ça qui me permet de ne pas être fixé sur les résultats après. Même si, évidemment, aimer les gens et être fin socialement, c'est absolument important. On n'est pas non plus appelé à ne pas être sensible à l'autre en face. Mais ce qui doit nous motiver en premier, c'est d'avoir rencontré notre Dieu, connaître ce qu'il veut, en étant passé par confession et purification. C'est ce chemin qui nous amène à être témoin. C'est en tout cas celui qui a amené Ésaïe à être son porte-parole. Alors on va reprendre son exemple en guise de mise en pratique. Hein. 4 étapes à traverser comme lui. Ésaïe était un homme qui avait une vision d'envergure de Dieu. Il a rencontré Dieu, rencontré son Seigneur. Et c'est de là qu'il a pu prendre conscience intense de sa condition de pécheur, passer par la confession, à laquelle Dieu répond toujours par une expérience profonde de sa grâce. Et ensuite, Ésaïe répond en se mettant à disposition. Disposition à donner et à être donné au service du Seigneur, quel qu'en soit le prix. Alors que Dieu nous aide à ressembler à Ésaïe davantage, je le prie en tout cas pour moi. Et alors, qu'est-ce que Ésaïe pourrait enseigner à tout va bien? C'est quoi la différence entre son optimisme et cette espérance maintenant que on a traversé ces 4 étapes avec Ésaïe qui fondent l'espérance, qui différencie donc de l'optimisme de tout va bien, absolument pas mon optimisme ou notre optimisme, c'est le problème de tout va bien, évidemment. Et je vous laisserai ces... Ah oui, tout va bien n'avait pas tout compris, excellent. Cette espérance vivante, donc, en 4 étapes, 4 vérités que nous pouvons nous approprier en guise de conclusion, c'est une rencontre qui me met en route. Ma rencontre avec Christ, avec le Seigneur, ma confession devant lui, sa grâce envers moi, ces 3 éléments me rendent porte-parole de notre Seigneur. Et je vais conclure par la prière. Seigneur, oui, merci parce que tu es un Dieu qui se donne à connaître, un Dieu qui vient à notre rencontre. Plus qu'une vision extraordinaire et très exaltée de toi, nous avons aussi une rencontre à notre niveau. Christ est venu dans notre condition, se mettre au milieu de nous, être un Dieu plein de compassion, plein d'amour que nous avons chanté ce matin. Et c'est ce Dieu complet, avec une vision pleine et entière de toi, une connaissance, la certitude de qui tu es, que nous voulons être fondés. Merci pour cette connaissance de toi que tu nous permets d'accéder tout au long de notre vie. Se mettre devant toi ce matin et te demander de nous rencontrer toujours plus, nous faire connaître qui tu es et parle à ta voix et ta volonté pour nous. Mets-nous en route, Seigneur. Amen.